Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans Sicile et Force du Destin, Hortense Dufour propose une biographie ample et fortement incarnée d'Elisabeth de Wittelsbach, devenue impératrice d'Autriche en 1854 après sa rencontre avec François-Joseph. Le livre s'attache à défaire l'image gracieuse, sentimentale et largement fictive imposée par les adaptations populaires centrées sur Sissi. Il replace la souveraine dans la réalité contraignante de la cour des Habsbourg, dans une Europe du XIXe siècle où le mariage dynastique, les devoirs de représentation et les conflits politiques déterminent étroitement les existences. Dufour privilégie le portrait d'une femme vulnérable, rétive au rôle qu'on lui impose et progressivement enfermée dans une relation difficile à son corps, à sa famille et à la vie viennoise. L'ouvrage ne se réduit donc ni à une chronique impériale, ni à une légende romantique. Il examine les tensions entre une aspiration personnelle à la liberté et les obligations d'une fonction publique. Son objectif principal est de restituer la densité tragique et contradictoire d'un destin souvent édulcoré. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, déconstruire le mythe cinématographique pour retrouver Élisabeth d'Autriche. Le premier enjeu de l'ouvrage consiste à séparer Élisabeth d'Autriche de la figure souriante et docile popularisée par les films consacrés à Sissi. Hortense Dufour ne nie pas les éléments qui ont nourri la légende, la jeunesse de la princesse bavaroise, sa beauté remarquable, le coup de foudre de François-Joseph. Mais elle montre qu'ils ne suffisent pas à expliquer sa vie. L'accession au trône, très précoce, n'apparaît pas comme l'aboutissement heureux d'un conte. Elle ouvre au contraire une période d'exposition permanente, de règles rigides et d'isolement. La beauté elle-même devient ambivalente. Admirée, commentée et mythifiée, elle contribue à faire d'Elisabeth un objet de regard public plutôt qu'une personne libre de se définir autrement. Cette correction du cliché a une portée historique autant que littéraire. Elle rappelle que la popularité d'un personnage peut effacer les conditions concrètes dans lesquelles il a vécu. Dufour présente ainsi une impératrice controversée et instable, dont les refus, les fuites et les silences comptent davantage que l'iconographie officielle. Le livre invite donc à lire Sissi non comme une princesse idéale, mais comme une femme confrontée aux effets psychologiques et sociaux d'une célébrité dynastique. Deuxièmement, la cour des Habsbourg, comme appareil de contrainte et d'isolement, la biographie insiste sur le décalage entre l'enfance bavaroise d'Elisabeth, associée au grand air et à une relative spontanéité, et l'univers de la cour impériale de Vienne. Ce déplacement est décisif, l'impératrice ne rejoint pas seulement un époux, mais une institution réglée par l'étiquette, la surveillance et les attentes de la dynastie. Dans ce cadre, l'individu est appelé à représenter une fonction avant d'exprimer ses préférences. La difficulté d'Elisabeth à s'acclimater à Schönbrunn et à la vie de cour ne peut donc être réduite à un simple caprice aristocratique. Dufour la relie à une incompatibilité profonde entre un tempérament épris de mouvement et un système qui valorise la discipline, la continuité et la visibilité cérémonielle. Les relations familiales, notamment la place dominante de l'archiduchesse Sophie, accentuent cette impression de dépossession. Le mariage d'amour avec François-Joseph ne résout pas ce conflit structurel, car l'empereur demeure aussi le chef d'un État et d'une maison souveraine, en décrivant le quotidien. Les contraintes et les rapports hiérarchiques, le livre rend intelligible la solitude d'Elisabeth. Elle est entourée, célébrée et pourtant privée d'un espace personnel stable. Cette perspective donne au récit une dimension critique sur le coût intime de la représentation monarchique. Troisièmement, Corse. Beauté et contrôle la face sombre de l'icône impériale chez Dufour. La beauté de Sissi n'est jamais un attribut décoratif isolé, elle devient l'un des lieux où se concentrent les exigences de la cour. L'angoisse du vieillissement et le besoin de maîtriser une existence qui échappe largement à l'intéressé. La célébrité de sa chevelure et de son apparence a favorisé des récits légendaires, mais l'ouvrage en souligne le revers. Elisabeth est présentée comme très préoccupée par son image, son poids et le passage du temps, au point de s'imposer des disciplines corporelles éprouvantes. Les éléments évoqués par les lecteurs, restrictions alimentaires, obsession de l'apparence, fragilité psychique, doivent être compris dans leur contexte plutôt que transformés en diagnostic rétrospectif définitif. Ils signalent une souffrance et un rapport de contrôle, non une simple coquetterie. L'impératrice, constamment regardée, peut chercher dans la gestion de son corps une zone d'action personnelle. Mais cette stratégie est paradoxale, elle lui procure une forme de maîtrise tout en renforçant l'enfermement dans l'image. Dufour éclaire ainsi la manière dont l'idéal féminin imposé à une souveraine peut devenir une contrainte intime. Le portrait dépasse le cas de Sissi, il met en évidence les effets d'une culture où la valeur publique d'une femme est étroitement liée à sa jeunesse, à sa silhouette et à sa capacité à incarner un idéal. Quatrièmement, voyage, équitation et fuite, rechercher une liberté hors de Vienne. Les départs répétés d'Elisabeth constituent un motif essentiel de Sissi, les forces du destin. il ne relève pas uniquement du goût aristocratique pour le voyage. Dufour les présente comme une réponse à l'oppression ressentie dans la capitale impériale et à l'impossibilité de s'y fixer sereinement. Les séjours loin de Vienne, tout comme la place accordée à l'équitation, dessinent une géographie personnelle de l'évasion. Le cheval est particulièrement significatif, il permet le mouvement, l'effort physique et une sensation de liberté que les espaces protocolaires refusent à l'impératrice. Cette recherche d'air et de vitesse révèle une contradiction durable. Elisabeth veut s'arracher aux obligations de son rang, mais elle ne peut jamais s'en libérer complètement. Ses déplacements restent ceux d'une souveraine observée, commentée et rattrapée par les affaires familiales ou politiques. La fuite possède donc un double statut. Elle protège temporairement contre l'angoisse et l'immobilité, mais ne résout pas les causes profondes du malaise. En mettant cette dynamique au centre, Dufour évite de réduire Sissi à une victime passive ou à une femme simplement fantasque. Ses voyages expriment une volonté d'autonomie réelle, tout en montrant les limites concrètes de cette autonomie dans une monarchie fondée sur le devoir de présence. Le mouvement devient ainsi la forme la plus visible d'un refus sans cesse recommencé. En dernier lieu, deuil, maternité et mélancolie dans un destin impérial tragique. Le livre accorde une place importante aux épreuves qui assombrissent progressivement l'existence d'Elisabeth, séparation familiale, maladie, décès et sentiment persistant de désaccord avec son environnement. Cette accumulation explique pourquoi Dufour privilégie un registre beaucoup plus grave que celui des représentations romancées traditionnelles. La maternité, notamment, n'est pas traitée comme un accomplissement paisible. Les rapports avec les enfants sont affectés par les règles de la dynastie, les distances imposées et les deuils. La mort précoce de sa fille Sophie apparaît comme l'un des traumatismes qui marque durablement l'impératrice. Le portrait d'Elisabeth devient alors celui d'une femme vulnérable à la mélancolie, à l'angoisse et à la tentation de se retirer du monde. Il serait toutefois réducteur de lire ces éléments comme une explication unique de tous ses choix. Dufour les articule à un ensemble, un mariage devenu distant, une cour hostile, la pression de l'image et la difficulté à investir durablement les rôles attendus d'elle. Cette approche donne une cohérence humaine au récit sans effacer ses contradictions. Les comportements d'Elisabeth peuvent paraître durs ou déroutants, en particulier dans certaines relations familiales. Le livre les inscrit dans une histoire de souffrance plutôt que dans une opposition simpliste entre vertu et faute. La tragédie tient précisément à cette impossibilité de concilier le désir de disparaître et l'obligation de demeurer une figure publique. En conclusion, Sissi, les forces du destin, s'adresse d'abord au lecteur qui souhaite connaître Elisabeth d'Autriche au-delà des images héritées du cinéma et des récits de princesses. Il conviendra aussi à ceux qui apprécient les biographies historiques centrées sur l'expérience intime du pouvoir, non pas seulement les décisions d'État, mais ce que la fonction souveraine impose à un corps, à un mariage, à une mère et à une personnalité fragile. La lecture offre un bénéfice intellectuel clair, elle apprend à distinguer l'icône culturelle de la personne historique, sans faire disparaître les zones d'incertitude ou les contradictions du personnage. Elle permet également de comprendre que les privilèges matériels d'une impératrice ne la protégeaient ni de l'isolement ni du deuil, par rapport à des biographies plus synthétiques ou strictement politiques. Le livre de Hortense Dufour se distingue par son ampleur narrative et par l'attention soutenue portée au quotidien d'Elisabeth. Cette proximité donne une force particulière au portrait, même si elle peut aussi produire, pour certains lecteurs, une impression de longueur. L'ouvrage se démarque surtout par son refus de la sentimentisation François-Joseph, la cour viennoise, les voyages. L'équitation et la beauté de Sissi ne sont pas des ornements romanesques, mais les éléments d'une existence sous tension. Pour un lecteur prêt à entrer dans une biographie développée, cette approche offre une compréhension plus nuancée de l'impératrice, une femme célèbre, profondément insatisfaite, et durablement prise entre les forces du destin et ses propres tentatives d'évasion. Si vous souhaitez soutenir Hortense Dufour, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.